notre Père, nous te louons parce que tu es un Dieu qui parle et nous te prions que nous soyons un peuple qui écoute. Donne-nous d'entendre ta voix ce matin et que nos cœurs, nos pensées, nos vies soient transformés à la lumière de ce que tu vas nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Nous vivons dans un monde où pratiquement tout est permis, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'interdit maintenant dans la vie. Pour citer un philosophe bien célèbre, le bien, le mal, je dis tant pis. Je dis tant pis. Un philosophe en question, c'est Elsa dans La Reine des Neiges, le film Disney, si vous avez vu cela. Mais c'est ce qu'on apprend à l'école, n'est-ce pas? Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est juste une série de choix personnels dans la vie d'une personne. Mais la seule chose qui est peut-être interdite, c'est d'oser critiquer le mode de vie de quelqu'un d'autre. C'est la seule chose qui n'est pas permise. Parce que si on fait cela, oh, la réaction sera terrible. Qu'est-ce que tu fais? Tu juges la vie de quelqu'un d'autre. Qui es-tu pour interférer dans la vie de quelqu'un d'autre? Et c'est dans ce contexte-là que les croyants en Jésus-Christ, rassemblés dans les églises locales, nous sommes exhortés à être différents. Nous avons une responsabilité devant Dieu pour les choix de vie de nos frères et sœurs. Les chrétiens ne sont pas seulement ceux qui sont nés dans une famille chrétienne ou ceux qui ont suivi le catéchisme ou qui sont baptisés, mais ceux qui ont reconnu devant Dieu et devant les autres qu'ils se sont éloignés de Dieu, qu'ils ont rejeté le Dieu qui les a créés. Ils reconnaissent qu'ils méritent la condamnation éternelle de la part de ce Dieu. Mais ils se confient également dans l'opération de sauvetage orchestrée par ce même Dieu et accomplie par son Fils Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour des rebelles comme nous. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Jésus pour être sauvé, pour être pardonné. Mais un chrétien, c'est également quelqu'un qui, avec l'aide du Saint-Esprit, se détourne de tout ce qui déshonore Dieu dans sa vie. C'est ce qu'on appelle la repentance. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Jésus et qui se repent de ses péchés, ou qui, comme on le dit souvent, qui accepte Jésus comme son sauveur, croyant en lui pour le salut, et son Seigneur, en se détournant de notre péché. Et Dieu nous a placés dans les églises locales, car cela permet aux autres de voir là où nous avons du progrès à faire dans la vie chrétienne, et là où nous marchons carrément dans la désobéissance. Ils peuvent nous reprendre. Ce passage que nous allons lire, nous avons lu, que nous allons étudier ce matin, parle de la question de la discipline dans l'Église. Ce n'est pas un sujet très facile à aborder. Je ne sais pas ce que ça évoque chez vous comme réaction première, la discipline dans l'Église. Et c'est Paul, c'est l'apôtre Paul qui va nous en parler. Et peut-être on a l'image dans notre tête d'un apôtre Paul très autoritaire, très dur. Un peu comme si vous avez lu le livre des Misérables de Victor Hugo. Moi, j'ai vu une fois au marché en France les 3 tomes de Victor Hugo, Les Misérables. Je me suis dit, ça va faire vraiment bien sur mon étagère, donc je les ai achetés, mais je n'ai jamais ouvert pour lire, mais il reste là. Mais j'ai vu la comédie musicale, peut-être certains ici vous avez visionné cela aussi. Il y a un policier, Javert. Je ne sais pas si vous connaissez Javert. Vraiment dur, dur. Aucune place dans son esprit pour le pardon, la pitié, la miséricorde, dur. Ou peut-être vous avez vu plutôt le film Les Choristes. Est-ce que vous avez vu le film Les Choristes? Vous vous souvenez du prof qui a dit action, réaction. Action, réaction, c'est comme ça qu'il fonctionnait dans la discipline dans l'école. Et nous, on pense peut-être, l'apôtre Paul, c'est comme ça. Action, réaction, dur, sans miséricorde. Mais nous serons surpris, je pense, de lire dans ce chapitre comment Paul, il envisage la discipline au sein de l'Église. Et ma prière pour nous tous, c'est que nous rentrions à la maison à la fin en rendant gloire à Dieu pour Paul, l'apôtre plein de compassion, et pour la discipline dans l'Église. Est-ce possible? Voyons ensemble. 2 choses que nous allons voir. Premièrement, sachons apprécier d'abord le cœur de pasteur de l'apôtre Paul. Sachons apprécier le cœur de pasteur de l'apôtre Paul. Dans cette section, nous voyons vraiment le cœur de Paul qui est mis à nu devant nous. Au verset 1 à 4, il parle de l'amour débordant dont il fait preuve envers l'église à Corinthe. Au verset 1, il dit qu'il ne veut pas retourner les voir une deuxième fois parce que sa dernière visite avait causé de la tristesse. Il a sans doute dû leur faire des reproches, peut-être parce qu'ils avaient toléré le péché flagrant en leur sein. Et peut-être parce qu'ils ne respectaient pas son autorité en tant qu'apôtre, l'envoyé de Jésus-Christ lui-même, et dont la visite a été douloureuse. Et Paul n'a pas envie de retourner les voir tant que la situation ne soit pas réglée. Paul voulait leur épargner de la tristesse. Car au verset 2, il dit « Si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi ?» Il a envie de voir l'Église réagir de la bonne manière pour régler la situation. Et c'est pour cette raison qu'il leur a rédigé une lettre que nous n'avons plus. Donc chronologiquement, cette lettre s'insère entre 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. On pourrait appeler ça 1 Corinthiens bis, quelque chose comme ça. Mais c'est une lettre que nous n'avons plus, mais qui vient entre les deux lettres. Et au verset 3, il dit ceci, « J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. » Donc il avait constaté quelque chose à Corinthe qui n'allait pas, il a écrit une lettre en disant « Il faut régler cette situation. » Pour que la personne qui est en train de marcher dans un péché flagrant sans se repentir, pour qu'il soit placé sous la discipline de l'Église. On peut lire en parallèle avec ça 1 Corinthiens 5. Peut-être nous allons juste voir quelques versets en 1 Corinthiens 5 pour mieux comprendre ce à quoi nous avons affaire ici. Donc si vous avez la Bible devant les yeux, 1 Corinthiens chapitre 5. Parce que là, il parle d'un cas aussi de péché flagrant dans l'Église. Il ne s'agit probablement pas du même cas dont il parle ici en 2 Corinthiens 2, mais c'est un cas semblable. Donc 1 Corinthiens 5 et les versets 1 à 5. Paul dit, à la page 1144, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, les non-chrétiens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Donc il y a quelqu'un qui couche avec sa belle-mère dans l'assemblée sans se repentir. « Et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Donc quelqu'un qui marche dans le péché flagrant et qui refuse de se repentir, Paul dit, il doit être exclu de l'assemblée. Exclu du droit de participer au repas du Seigneur. Exclu de la liste des membres de l'Église. Parce qu'on ne peut pas considérer une telle personne comme étant véritablement convertie et chrétienne. Tant que la personne ne se repent pas de son péché. L'idée, ce n'est pas que les chrétiens ne pêchent pas. Non. Sinon, l'Église serait vide. Mais ici, nous avons affaire à quelqu'un qui pêche sans se repentir, sans se détourner de son péché grave. Et Paul dit, il faut agir contre une telle personne. Et donc, revenons à 2 Corinthiens 2, parce que ça nous donne un peu le cadre. Et donc, c'était un cadre différent, mais semblable, qui a poussé Paul à écrire cette lettre qui a causé de la tristesse envers les à Corinthiens. Il ne s'agit pas de la même personne, mais quelqu'un d'autre qui a commis un péché grave, qui a peut-être offensé l'apôtre Paul, qui a mené une révolte contre son autorité. Et du coup, l'Église devait le mettre sous discipline. Mais quel était l'état d'esprit lorsque Paul a rédigé cette lettre en encourageant l'Église à mettre cette personne sous la discipline? C'est surprenant, je pense. Si on a en tête cette image de Paul en tant qu'apôtre autoritaire, dur. Voyons le verset 4 du chapitre 2 de 2 Corinthiens. Le verset 4 dit que c'était dans une grande affliction, le cœur angoissé avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que que j'ai pour vous. Là, on est des années-lumière d'une idée d'un apôtre Paul intransigeant, dur, autoritaire. Non, c'est un pasteur avec un amour débordant pour l'assemblée et pour la personne qui refuse de se repentir. On peut l'imaginer dans son bureau en train d'écrire pour encourager l'Église à pratiquer la discipline contre celui qui a péché. Peut-être il rédige une phrase, il le barre, il recommence de nouveau, le cœur angoissé. Peut-être sur le papyrus, il y avait des endroits où c'était pas facile de déchiffrer parce que ses larmes sont tombées dessus. Quel amour! Il ne faut jamais envisager la discipline de l'Église sans envisager des larmes de tristesse, pour devoir affronter une telle situation, pour devoir dire des choses concernant la vie de quelqu'un d'autre, des larmes d'amour en voulant que l'autre revienne à Jésus. Je pense qu'en tant que parent, il peut nous arriver d'éprouver une émotion semblable lorsque notre enfant a fait quelque chose de grave et nous voulons le discipliner pour lui apprendre qu'il n'est pas du tout permis d'agir ainsi. Mais nous voyons aux yeux de l'enfant qu'il ne veut pas qu'on le réprimande. Mais nous savons que c'est pour son bien. Pour son bien. Ils sont convaincus que dans le long terme, un enfant qui ne reçoit pas de discipline deviendra désobéissant, indiscipliné, ingérable. Mais Paul, le pasteur modèle, aimait les chrétiens suffisamment que pour les corriger. Il est conscient que ces réprimandes feront du mal, mais il sait que c'est pour le mieux, pour l'Église. Et nous voyons aussi que son but dans la discipline de l'Église, c'est le pardon du pécheur qui se repent. La lettre qu'il avait rédigée a eu son effet, l'Église a mis la personne sous discipline. Car au verset 6, nous lisons, « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. » Mais Paul dit que le temps de discipline a assez duré, puisque visiblement l'homme en question s'est repenti. Bonne nouvelle, s'est détourné de son péché. Et au verset 7, Paul recommande à l'Église de lui pardonner, de le consoler. Mais verset 8, il les exhorte à faire acte de charité envers lui. Et au verset 10, Paul les assure qu'il pardonnera aux pécheurs pour leur bien et en présence de Christ. Pour le bien des Corinthiens, car il veut voir une assemblée unie autour de l'Évangile. Et en présence de Christ, car c'est Christ lui-même qui est la source de tout pardon. C'est une nouvelle extraordinaire. Peut-être pensez-vous que vous avez commis des choses pour lesquelles Dieu ne pourrait jamais vous pardonner. Ce n'est juste tout simplement pas vrai. Dieu a envoyé son Fils Jésus dans le monde pour qu'il meure à notre place, pour qu'il prenne sur lui-même la condamnation divine que nous méritons pour nos fautes. Toutes les mauvaises choses que nous avons commises ont été placées sur les épaules de Jésus-Christ. Et il a pris le prix afin que nous soyons pardonnés. Et si vous êtes détournés de votre péché, si vous croyez en Jésus en tant que votre sauveur, vous pouvez être assurés de son pardon. Et parce que Christ pardonne, l'apôtre Paul pardonne. C'est tout pasteur qui doit chercher à pardonner celui qui se repent. Voyez-vous, Paul n'est pas un homme dur, autoritaire. Oui, il dit des choses difficiles quand il le faut, mais c'est toujours pour le bien de l'assemblée, toujours désirant la repentance et le pardon. Paul, il est l'apôtre de Jésus-Christ, doté de son autorité, mais il imite également sa compassion. Débarrassons-nous de nos a priori au sujet de l'apôtre Paul. Louons Dieu pour lui. Quel apôtre plein de compassion que nous avons. Sachons apprécier son cœur de pasteur. Imitons son amour. Et écoutons ce qu'il nous dit. Notamment concernant la discipline de l'Église. Et c'est ça la deuxième chose que nous allons voir ce matin. Suivant les instructions de l'apôtre Paul en ce qui concerne la discipline de l'Église. Suivant les instructions de l'apôtre Paul en ce qui concerne la discipline de l'Église. Comme j'ai dit, nous ne savons pas quelle était la situation précise à Corinthe. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui avait causé du chagrin, non seulement à Paul, mais à toute l'assemblée. Verset 5 nous le dit. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Au chapitre 7, on peut voir ça ensemble, chapitre 7, verset 12, nous en apprenons un peu plus sur ce qui s'est passé. Chapitre 7 et verset 12 nous parlent de quelqu'un qui a fait l'injure et celui qui a reçu l'injure. Donc un différent personnel mais grave au sein de l'assemblée. Probablement quelqu'un qui s'est rebellé contre l'autorité de Paul via un messager que Paul avait envoyé. Et Paul dit que c'était suffisamment grave qu'il fasse l'objet de la discipline de l'Église. Et c'est ça ce que nous voyons de nouveau au chapitre 2, verset 6. Chapitre 2, verset 6. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Donc l'Église a agi suivant les recommandations de l'apôtre Paul. Ils ont appliqué la discipline de l'Église. Peut-être l'ont-ils exclu de la Sainte Cène en disant « Tes actions ont pour conséquence que nous ne pouvons plus te considérer comme chrétien tant que tu ne te repens pas. » Il est très important de constater au verset 6 que la discipline de l'Église n'a pas été imposée par les responsables seulement, mais bien par le plus grand nombre, dit Paul. Probablement, cela voulait dire que c'était des membres de l'Église qui ont agi tous ensemble pour mettre la personne sous discipline. Pas à l'unanimité, vous voyez ça, verset 6, le plus grand nombre, mais à la majorité. On peut bien imaginer qu'ils ont eu une réunion de membres. Ils ont présenté la situation, le péché que l'homme a commis. Les dirigeants ont recommandé qu'ils réagissent contre cet homme. Et l'Assemblée a voté, tous ensemble, en faveur de la discipline. Et c'est ainsi que cela doit se faire dans l'Église. Discipliner un membre qui marche dans le péché n'est pas l'affaire des anciens ou des responsables seulement. C'est à nous tous de nous soucier de la santé spirituelle de l'Assemblée et d'avoir le courage de suivre la direction présentée par les dirigeants. Et puis, nous les membres, nous devons tous respecter la discipline de l'Église. Nous ne devons plus traiter celui qui a péché, qui refuse de se repentir de la même manière qu'auparavant. Nous ne pouvons pas le traiter comme un chrétien. Non pas parce qu'un chrétien ne pêche pas, mais parce qu'un chrétien est quelqu'un qui se repent de son péché. Si nous avons un contact avec la personne, nous devons l'exhorter à se repentir, à ne plus vivre dans le péché, à revenir au Seigneur Jésus, à sa parole. Et donc, il est super important de se faire membre si on veut s'engager dans une église. Car ainsi, on peut contribuer à la santé spirituelle de l'église. Prendre part aux décisions de discipline dans l'Église. Êtes-vous déjà membre d'une Église locale? Est-ce que cela fait plus qu'un an que vous êtes dans l'Église et vous n'êtes pas encore membre? Mais devenir membre vous protège, car si jamais vous sortez du droit chemin, les autres membres sont là pour vous avertir, vous exhorter dans l'amour à revenir à Jésus. Et vous aurez l'occasion d'aider les autres à suivre Jésus. Donc, s'il y a péché grave sans repentance, l'Église doit procéder à la discipline appliquée par des membres. Et on espère que cela amènera l'autre à la repentance. Le chapitre 7 de 2 Corinthiens parle de la tristesse qui mène à la repentance. Et la discipline de l'Église est censée susciter cette tristesse qui provoque la repentance. Nous pensons parfois que mettre quelqu'un sous discipline lui dire qu'il n'est plus le bienvenu parmi nous, va lui faire mal. Et c'est vrai, et c'est l'effet voulu, afin que l'autre se rende compte qu'elle ne devrait pas se considérer en tant que chrétienne tant qu'elle ne se repent pas de son péché. Et on prie que cela amène la repentance. Et visiblement, c'est ce qui s'est passé à Corinthe, car Paul exhorte l'Assemblée à mettre fin au châtiment appliqué par les membres. Relisons les versets 6 et 7. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Paul veut que le pécheur ressente de la tristesse qui le pousse à se repentir Mais dès que la personne se repent, les membres doivent le pardonner, le consoler, afin qu'elle ne soit pas accablée par une tristesse excessive. Voyez-vous le but de la discipline de l'Église? Il ne s'agit pas d'une démarche de revanche ou d'un désir d'éradiquer de l'Assemblée toute personne qui pêche, non. La discipline de l'Église vise la repentance. Et dès qu'il y a repentance, Paul dit, il doit y avoir pardon. Je pense que s'il fallait dresser la liste des choses qui sont les plus compliquées à faire dans la vie, je pense pardonner aux autres figurer quelque part en haut de la, en tête de la liste, n'est-ce pas? Peut-être qu'un ami ou un collègue nous a vraiment blessés, nous avons du mal à lui pardonner. Au sein du couple, il n'est pas facile de se pardonner l'un à l'autre. Et dans l'Église aussi, parfois nous pouvons être contents presque de voir quelqu'un mis sous discipline. Mais lorsque la personne se repent, on a du mal à lui pardonner. On a envie qu'elle souffre encore. Mais Paul dit, il faut lui pardonner. Il ne faut pas que la personne soit accablée par une tristesse excessive. On pense que même après la repentance, Dieu le rejette toujours. Ce n'est pas le cas. Dieu accepte le pécheur qui s'est repenti. Nous devons le faire aussi. Et au verset 8, Paul exhorte l'Église à réaffirmer son amour pour cet homme. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui. L'expression « faire acte de charité » veut dire affirmer formellement de l'amour à son égard. Il s'agit probablement d'une décision formelle des membres de la communauté pour réadmettre la personne dans la vie de l'Église en tant que membre et frère en Christ. Et c'est une joie lorsque cela a lieu, lorsqu'une personne se repent suite à la discipline de l'Église et retrouve sa place parmi nous, tout comme les autres. Vous voyez une Église qui veut suivre les enseignements de Paul, qui veut être fidèle à Jésus-Christ, doit être prête à administrer la discipline de l'Église. Il y a beaucoup d'Églises, malheureusement, qui ne le pratiquent pas. Il faut faire attention dans la manière de pratiquer la discipline de l'Église, bien sûr, avec amour, avec les larmes, après plusieurs avertissements. Mais une Église qui est fidèle doit non seulement pratiquer la discipline, mais être prête à pardonner aux pécheurs qui se repent et réaffirmer publiquement le frère ou sœur qui s'est repenti. C'est pour cela que Paul a écrit sa lettre, verset 9. « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. » Est-ce que nous voulons être une Église qui est obéissant aux enseignements de l'apôtre Paul? Oui. Est-ce que nous voulons que la nouvelle Église à Louvain-la-Neuve soit une Église qui obéit aux enseignements de l'apôtre Paul? Oui. Il faut donc que l'Église soit prête à administrer la discipline de l'Église dans le but de chercher le pardon, la repentance. Mais aussi, l'Église doit être prête à pardonner une fois que le pécheur se repent. Et au verset 10, Paul veut rassurer l'Église que lui-même il pardonne aux pécheurs. Verset 10, « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. » Paul ne veut pas que les Corinthiens ou le pécheur se demandent « Est-ce que Paul me pardonne ?» Paul dit que oui, il lui pardonne. Et c'était comme si les membres de l'Église pardonnent aux frères, Paul le fait aussi. Paul ne veut pas court-circuiter l'action des membres. Et s'ils le font, Paul le fera aussi. Et en fait, selon le verset 10, Paul l'a déjà fait, il a déjà pardonné en présence de Christ. Car Christ est la source de tout pardon, de toute personne ici, ce matin, qui se tourne vers Christ en se détournant de son péché. Mais pourquoi est-ce que tellement important de pardonner à celui qui se repent? Le verset 11 nous le dit. Il dit « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Satan est bien réel, selon la Bible. Et s'il voulait détruire des églises, comment ferait-il, à votre avis? peut-être en encourageant les églises à tolérer le péché grave. Ça, c'est un moyen par lequel il détruit les églises. Mais un autre moyen par lequel il détruit les églises, c'est en encourageant les membres à ne pas pardonner à un pécheur qui a été mis sous discipline, qui s'est repenti. Satan veut qu'il y ait division et rancune et rancœur au sein de l'église chrétienne. C'est la recette qu'il faut suivre pour détruire une église. Garder rancune envers quelqu'un qui s'est repenti. Ça, c'est une des tactiques du diable. Donc, faites très, très attention. Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Paul nous a dit, Satan veut qu'il y ait rancune, rancœur dans l'église. Moi, je me réjouis qu'à l'église de Wallabie, nous ayons des membres qui sont bien disposés à pratiquer la discipline quand il le faut avec tristesse. Mais qui sont aussi prêts à accueillir, à pardonner celles et ceux qui se repentent. Est-ce que vous voyez le bienfait de la discipline de l'église? Souvent, on a une mauvaise idée de ce que c'est la discipline de l'église. Ça nous refroidit. Et bien sûr, il y aura beaucoup de questions qui seront suscitées après un enseignement donné comme ça. Et donc, je vous encourage à trouver Steve Samuel, moi-même, à poser vos questions concernant ce que c'est la discipline de l'Église. Qu'est-ce que c'est être membre d'une Église chrétienne? Donc, vous voyez, Paul n'est pas du tout comme un inspecteur Javert, dur, autoritaire, intransigeant, pas comme le prof dans le film Les Choristes, pas comme un directeur d'école qui crie sur les gens tout le temps. Non, il est l'apôtre de Jésus-Christ qui porte son message, qui imite son amour et sa compassion. Quel apôtre que Dieu nous a donné, avec son cœur de pasteur, louant Dieu pour lui. Et écoutons ce qu'il a à dire concernant la discipline de l'Église. Et prions que cela amène la repentance, la tristesse qui mène à la repentance chez la personne en question. Prions ensemble. Notre Père, nous te louons parce que tu es un Dieu tellement compatissant. Lorsque Paul a pardonné au pécheur qui s'est repenti, il l'a fait en présence de Christ. Christ est celui qui nous pardonne à nous tous. Si nous nous confions en lui, en sa mort sur la croix, si nous nous détournons de notre péché, quelle grâce! Quelle grâce! Nous te louons pour Paul, l'apôtre que tu nous as donné, un apôtre plein de compassion. Et merci aussi pour la discipline de l'Église. Parce que c'est une bonne chose, finalement, pour amener le pécheur à la repentance. Nous te prions de nous garder, chacun d'entre nous, du péché grave dans notre vie, du refus de nous repentir. Et que nous ayons un regard bienveillant les uns sur les autres. Et cela pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.